Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Antonin Potoski, qui publie « Nager sur la frontière » chez Gallimard. Quand je demande à des gens s'il leur arrive de ne rien entendre, certains répondent « oui ». Je perçois toujours, même dans les situations les plus calmes, un sifflement aigu, comparable au chant des prises électriques ou à celui des tubes cathodiques. Je parviens à l'oublier seulement quand d'autres sons occupent le premier plan de mon attention. J'aimerais beaucoup en être débarrassé, mais je me raisonne pour ne pas en souffrir. C'est ma norme. Je n'ai jamais connu le silence. Ce n'est rien de dire, Antonin Potoski, que je suis très heureux de vous retrouver après pas mal d'années de silence, d'absence. Vous aviez fait pour nous, pour Surpris par la nuit, des émissions. Vous êtes venu à plusieurs reprises dans Du jour au lendemain. Seulement voilà, vous voyagez. Vous voyagez beaucoup et quelquefois c'est incompatible avec la radio. Heureusement, il reste de vos voyages des livres. Vous en avez publié un certain nombre qui se présentent comme des récits, mais des récits qui nagent aussi sur la frontière des genres. Il y a eu chez Powell, en 2000, les plus belles cartes, la plus belle carte du monde. Il y a eu l'année suivante, chez le même éditeur, les cahiers d'Ogon. En 2004, Hôtel de l'amitié, et chez Gallimard, à partir de 2011, Cité en abîme. Pas cité à comparaître. Écrire, pour vous, c'est inséparable de cette activité qui vous occupe le plus clair du temps, c'est-à-dire passer des frontières.
Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Je me suis jamais posé la question de l'écriture parce que j'ai construit ma relation, on pourrait dire la relation entre mon corps et la géographie au moment où je dévorais des livres, qui étaient plutôt des livres de science-fiction, quand j'allais à la bibliothèque municipale en Lorraine toutes les semaines. Et j'ai commencé, j'ai écrit un premier livre entre 11 et 13 ans qui était mon essai à moi de science-fiction que j'avais envoyé à un auteur de fantastique qui est mort, qui s'appelle Stéphane Vull, qui m'avait reçu chez lui et un été. Ça a été une cruelle déception parce que je pensais qu'en rencontrant cet homme, qui m'avait fait voyager d'une planète à l'autre au fil de ses livres. Et j'ai été reçu chez un... Il était orthodontiste. Il m'avait raconté qu'il écrivait, qu'il prenait 2 heures tous les matins avant d'ouvrir son cabinet. Et il m'avait montré le petit endroit au fond de son jardin où il s'isolait pour rêver et penser à ses voyages interplanétaires. Je pensais qu'il allait me faire rencontrer ma vie. Je pensais que c'était lui qui allait me... C'était la première rencontre vers... l'autre vie dont je devrais vous parler maintenant. J'imaginais aussi à l'époque, en allant à l'école, qu'un jour une voiture pilerait, c'était un peu une sorte d'enlèvement de bande dessinée, que des bras forts me tireraient, qu'on m'endormirait et qu'après un long voyage, je sentirais un soleil plus chaud et plus vif que celui de mon pays sur ma peau et que je serais réveillé par ce soleil plus chaud et plus vif. Et quand levant ma tête un peu sonnée, je verrais le monde que je me suis toujours promis et que je me promettais avec toutes ces lectures. Alors je m'amusais même à écouter le son des voitures et à me dire celle-là. Ce sera celle-là. Et finalement, aujourd'hui, à plein de moments, c'est des situations qui sont toujours plus ou moins contrôlées. Je suis soit dans des zones tribales, dans l'Est indien, au Bangladesh, soit dans la Corne de l'Afrique, ou alors au fin fond de l'Indonésie. Et la seule sécurité, c'est que j'ai réussi à m'entourer de gens en qui j'ai une totale confiance. Mais il m'arrive souvent d'être dans des transports, après la tombée de la nuit, en dehors d'un checkpoint où j'aurais dû me présenter, mais dans des situations où je me dis que je suis passé de l'autre côté de l'enlèvement. Finalement, je passe ma vie à me retrouver sur la phase B de mes lectures.
Mmh. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Pas forcément la chaleur du soleil ?
Alors, ça fait deux livres que j'écris des livres de pluie. Il pleut, il y a des douches de cinéma et des larmes du début à la fin de ces récits qui se passent dans un pays que j'ai nommé le pays de Cardamome. Parce que quand on avale une bouchée de nourriture, on croque dans une graine de cardamome. Et ce pays, on a souvent du mal à associer l'est de l'Inde et l'ouest du Myanmar, la Birmanie. On pense que la Birmanie est rattachée à l'Asie du Sud-Est et on pense que le Bengale et les États de l'Est indien sont plutôt rattachés à l'Inde. En réalité, il y a un monde vraiment distinct qui se trouve sous un couvercle de pluie et d'humidité. Alors, comme ma vie est un aller-retour entre, en ce moment, la péninsule arabique, l'Afrique de l'Est, donc qui sont des mondes très secs et très minéraux, et puis et ce monde de pluie, je vis dans une humidité extrême en ayant une sorte d'ancrage dans un monde solide et minéral qui permet à l'asthmatique que je suis de survivre.
Mmh. On peut dire en tout cas qu'avec nager sur la frontière, c'est dans des régions plutôt oubliées du monde que vous entraînez votre lecteur.
Je suis par la force des choses, parce que j'ai beaucoup lu d'anthropologie aussi, et cette littérature m'a d'abord, par la lecture, emmené dans des endroits qui étaient isolés, mais qui étaient aussi isolés parce qu'il y avait très peu de moyens de déplacement à l'époque où ces livres ont été écrits. Mais je suis sensible à toutes les raisons qui font que nous sommes différents. Ce sont toujours des mauvaises raisons. En particulier, j'étais fasciné par les écrits sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où d'une tribu à l'autre, séparée de seulement quelques kilomètres, on change vraiment d'univers. Et les différences sont dues au fait que chaque tribu est montée contre l'autre. Donc c'est toujours construite en opposition à l'autre. Et quand l'anthropologue passe d'une tribu à l'autre, il est obligé de subir des rites de purification et d'acceptation pour se débarrasser de tout ce qui l'alourdit, parce qu'il a été il a habité dans le village d'à côté. Toutes ces les raisons, l'isolement, les raisons qui font qu'une culture est distincte, qui font que les liens, que nous connaissons encore les accents et peut-être encore les langues différentes, mais on ne peut pas affirmer que ce sera pour toujours, me séduisent beaucoup.
Vous disiez, Antonin Potofsky, que vous ne vous posiez pas vraiment la question de l'écriture, vous ne vous posez pas la question du pourquoi, mais en tout cas, certainement celle du comment, puisque il en est question dans le livre. Vous dites comment vous procédez après une première période d'affolement, je crois que c'est le mot que vous employez, affolement par le volume de ce que vous avez écrit par rapport à celui qui sera en fin de compte publié.
Oui, j'écris pendant des années à peu près 5 fois le volume qui sera publié parce que il serait simple de, parce que j'ai besoin d'écrire pour éliminer. J'ai besoin de pour atteindre. J'ai quand je commence un livre parce que je n'invente rien donc tout ce que j'écris
tout est vrai,
tout est vécu,
vérifiable.
À un moment donné, c'est une période. En gros, un livre, c'est une période de la vie qui se referme sur elle-même, qui commence à avoir un sens sous un titre.
C'est un moment, un moment de vie, un livre.
Oui, oui, vraiment, c'est une sorte de. Oui, c'est toujours un. En gros une boule d'intuition. Rien n'est très très net, mais une boule d'intuition qui correspond à des moments associés à des lieux. Cette boule tourne sur elle-même et je commence à la filer, pas forcément à l'endroit où ça se passe. Bien souvent, je voyage avec mes manuscrits ailleurs et du coup, je vous laisse.
Vos manuscrits, c'est-à-dire
parce que
des
j'écris
carnets,
dans des cahiers,
des notes.
Oui, j'écris dans des cahiers. Et ça, c'est le plus préoccupant en voyage parce que j'ai ma plus grande crainte, c'est les inondations. En fait, je les emballe dans des plastiques et des plastiques pour ne pas les perdre. Tant qu'ils ne sont pas saisis, j'ai ce poids avec moi.
Et pourquoi pas les saisir
Parce que je n'écris pas directement. J'écris toujours sur les pages droites d'un cahier, en laissant les pages. Ce sont des cahiers d'école hein, avec des lignes que j'achète un peu partout comme ça. Donc, c'est toujours des cahiers dépareillés. Ouais. Et j'écris
des
toujours sur les.
Des cahiers de mauvais élèves.
Alors, j'écris sur les pages droites. Et en laissant toujours la page gauche libre, parce que j'ai souvent besoin de ne pas tourner la page, mais de continuer une idée sur une même page, en tournant autour, sur le bord de la page, et puis finalement en reprenant l'autre, en retournant le cahier et en prenant l'autre à, comment on pourrait dire, la tête en bas. Mmh. Parce que c'est important que mes idées soient organisées comme ça et pas comme un bloc sur un écran. Mmh.
De la suite dans les idées.
Alors après, ces notes, je les reprends souvent ailleurs que là où je les ai prises. Mon voyage, je passe d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, et cela me permet de tirer mes idées depuis l'endroit où elles sont, avec conscience de l'amplitude de la distance qui m'en sépare. Et ce qui se passe autour de moi au moment où j'écris, évidemment, va venir comme une... Mmh. Je suis en train de construire un espace et ce qui va justifier mon texte, c'est l'intrusion d'un instant de réalité dans le cadre, mais je pourrais dire vraiment spatial, que je suis en train de construire.
Ce sont donc les notes qui révèlent l'idée, qui vous permettent de découvrir où vous vouliez en venir.
Et oui, et c'est comme ça aussi que j'élimine, parce qu'il serait très simple de... souvent, quand j'arrive au bout, je me dis, mais il aurait été tellement plus simple, mais c'est un peu comme la psychanalyse. Je crois que les choses doivent être, chez moi, doivent être couchées. C'est comme... Commencer un livre, c'est comme gravir une montagne. Je vois des cols et des cols et des cols qui m'empêchent de voir le résultat. Et
l'horizon.
Tant que je ne les aurai pas franchis, donc tant que ce ne sera pas écrit et travaillé, je n'atteindrai pas le livre à publier.
Vous écrivez, c'est en empruntant la route de l'écriture que je voyage jusqu'au livre.
À propos de cahiers et d'écriture, parce que je pourrais me lancer dans mon histoire des corps et de la géographie, mais il y a aussi au Bangladesh quelque chose de très particulier, ce sont les sacs en papier dans lesquels on met tout ce que vous achetez. Quand vous allez au marché, on vous donne... Le plastique est interdit dans le pays, sinon le pays serait noyé sous une masse de plastique. Et du coup, des pommes, des légumes, peu importe, des épices, des clous, vous sont donnés dans des sacs en papier qui sont des copies d'école ou des cahiers qui sont... Le papier est récupéré et dans des ateliers partout et réassemblé en sac. Donc du coup, quand vous achetez quelque chose, vous n'achetez pas seulement le bien dont vous aviez besoin, mais vous achetez aussi du sens, parce qu'il y a des histoires à l'extérieur des sacs et d'autres histoires, parfois des punitions, parfois des récitations, alors c'est soit en bangla, et alors je ne le comprends pas, mais en fait je les recense en les photographiant, parce que ce sont comme des architectures. Quand vous glissez l'appareil photo dans le sac en papier, vous entrez rentrer dans une architecture de texte qui soit a du sens en anglais, soit simplement une beauté de calligraphie que je garde.
Justement, sur la table, vous avez posé un sac en papier.
C'est parce que il est particulier. J'ai envoyé par email depuis la frontière du Tripura indien le texte de ce livre à mon éditeur chez Gallimard. Et ce jour-là, la femme qui cuisinait pour moi a grillé une sorte de bloc d'interrupteur qui était connecté à sa cuisinière. Donc du coup, je suis allé au marché acheter avec des amis Tripura, je suis allé acheter ce bloc électrique dans un magasin d'électricité. Et on m'a donné, comme il s'était lourd, du coup, on m'a donné un sac un peu plus rigide que les petits sacs en papier dont je viens de parler, un sac un peu plus sophistiqué avec des couleurs et puis une poignée avec des rivets. Donc un sac un peu cartonné. Et évidemment, je reconnais, en sortant du magasin, je reconnais que c'est une carte marine. Donc c'est un... Alors, il y a la terre est en jaune, il y a les cartes marines, elles sont bleues et elles sont blanches et violettes, avec des tas de coordonnées géographiques. Et puis, je vois aussi, en regardant d'un peu plus près, des petites traces au crayon. Donc, en gros, c'est une carte qui a servi. C'est écrit France Greenway Traffic Report. Et en regardant donc de près, je vois Boulogne-sur-Mer, Cap d'Albrecht, Cap Grinet. Et alors, je suis obligé de crier en anglais « This is my country map » aux gens qui m'entourent. Je comprends, dans le port de Chittagong au Bangladesh, il y a un cimetière de tankers qui est un endroit auquel on ne peut plus accéder aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont essayé de faire des reportages, mais j'ai eu la chance il y a quelques années d'y aller. Et c'est plus pour qui a vu les pyramides d'Égypte, c'est beaucoup plus impressionnant parce que quand le navire est vraiment, il n'est pas à moitié dans l'eau, il est complètement debout devant vous et en train d'être démantibulé. Et il y en a des centaines à perte de vue sur plus d'une dizaine de kilomètres. J'ai compris que des tankers se sont débarrassés de cartes marines, que ces cartes marines n'ont pas été brûlées comme tout est récupéré là-bas, qu'on en a fait des sacs. Et finalement, moi, je venais de faire le lancer de mon livre dans la nuit numérique depuis un cybercafé et me revenait entre les mains un objet qui provenait de mon pays.
Et là, on peut dire que le contenant est aussi important que le contenu.
Oui, on peut le dire.
Ou le signifiant et le signifié. Ouais.
Et alors, aussi, vous m'avez parlé de comment je suis venu à l'écriture et au voyage.
Je vous ai posé cette question.
J'ai grandi entre la Lorraine et la Provence. J'ai passé ma scolarité en Lorraine. J'ai toujours souffert de quitter la Provence à la fin de l'été, au moment des éclairs de chaleur. Pour moi, la Provence, c'était mon Sahel d'avant le Sahel. C'était le premier endroit où j'ai senti cette sécheresse que mon corps a toujours, par laquelle mon corps a toujours été appelé. Sous l'hiver en Lorraine, j'ai commencé à être en deux endroits. J'ai commencé à tout penser en deux points. Quand je me souviens de mon enfance, je m'en souviens par une sorte de... Je ne sais pas si je peux déjà parler de triangulation, mais par une sorte de... Je vivais un hiver en Provence que je ne connaissais pas, parce qu'à l'époque, on n'était encore jamais allé l'hiver en Provence, la maison n'était pas chauffée. Et j'ai commencé à exister en plusieurs points. J'ai compris récemment, j'ai pas envie d'en, ça serait trop long à expliquer, mais qu'il y avait un mot, que ça s'appelait la synesthésie, qu'il y a des gens comme moi qui voient les lettres en couleur, qui écoutent la musique selon un parcours physique, qui fait que quand on entre dans un morceau de musique, on mémorise un parcours physique, et quand on y pense ou quand on... Je peux entrer au milieu du morceau et à ce moment-là, entrer au milieu d'un parcours que j'ai déjà physiquement, en tout cas, que j'ai la sensation d'avoir physiquement parcouru. Et avec cette histoire de penser en deux points, j'ai commencé à placer, à l'époque, c'était bien avant l'an 2000, je situais l'an 2000, donc un moment dans mon avenir, je le situais quelque part dans le désert libyque. Aujourd'hui, je ne suis pas allé dans le désert libyque, mais quand je pense à l'an 2000, je vois toujours ce point du désert libyque sur lequel j'avais posé mon idée. Alors, j'ai aussi appris que d'autres gens, on serait 5% de la population à fonctionner avec, à faire des... En gros, c'est deux membranes du cerveau qui sont censées être séparées chez tout le monde et chez les synesthésistes, il y a des passages d'une partie à l'autre du cerveau qui créent des associations, mais fixes, immuables, entre des choses qu'un poète peut associer. Mais chez nous, c'est même pas une activité intelligente. C'est une activité sur laquelle on n'a aucun contrôle.
Ouais.
Donc moi, j'ai construit mon rapport à la géographie en existant, en pensant par plusieurs points. Alors, tous mes livres sont construits comme ça, je me déplace avec mes manuscrits, mais par ailleurs, les idées que je tire avec mes manuscrits sont posées sur d'autres endroits où je n'ai pas forcément besoin d'aller, mais cette histoire entre la Provence et la Lorraine a provoqué une pensée géographique.
Donc les livres se font
dans un sentiment géographique.
Les livres se font dans les méandres de cette relation tout à fait particulière que vous avez entre l'espace géographique et le temps,
et
l'histoire.
Et puis ça va un peu plus loin, parce que en creusant et en écrivant ce livre, j'ai réalisé, mais plus que on en a déjà parlé ensemble dans une autre émission.
C'était il y a très longtemps.
Et à l'époque, c'est dans les cahiers d'Ogon. Un matin, j'ai gardé les yeux fermés un peu plus longtemps que d'habitude, et je disais ce matin, je suis noir, et je voulais, avant d'ouvrir les yeux, avant de constater que j'étais toujours le même, essayer de ressentir ce qu'était un réveil dans un corps noir au Mali. Je me rends compte que mon attrait pour les très légers décalages dans l'espace, j'ai finalement compris en écrivant. Et chaque voyage est aussi c'est vraiment très proche de la psychanalyse, quoi. Chaque voyage, rencontrer autant d'identités qui se combinent avec autant de cultures est toujours une façon de renvoyer, de recevoir c'est une espèce d'écho de question qui fait que chacun de mes textes est je m'approche un tout petit peu plus de entre guillemets, je sais pas, de ma complexité ou de mon problème, mais je me rends compte que ces décalages dans l'espace et mon attrait pour les flashs, pour des moments lumineux qui n'existent que quand nos regards sont croisés sur ces moments. Donc des endroits que nous avons habités, mais qui ne sont pas des endroits vraiment habitables, qui sont des moments de lumière dont nous avons le souvenir ensemble. Et donc nous savons que nous avons habité ce moment de lumière. C'est cette envie, on peut dire c'est une fiction depuis toujours. Je comprends que les gens qui m'ont entouré, puisqu'on est, notre structure psychique est chargée par les gens qui se penchent au-dessus de notre berceau, donc par les gens qui nous entourent, et ce qu'ils nous transmettent.
Qui ne sont pas toujours des faits.
Comment ?
Qui ne sont pas toujours des faits.
Non, qui sont pas toujours des faits, mais qui précisément transmettent ce qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes, puisque c'est la première chose qu'on transmet, c'est ce qu'on ne connaît pas de soi-même. Et c'est cela que je réalise pour les gens qui m'ont entouré. Je me rends compte que je n'ai jamais complètement cru à mon corps et que je raisonne, je sais que c'est impossible, mais je sais aussi, puisque je me suis toujours construit comme ça, qu'un jour j'aurai un autre corps. Et ces petits décalages, ça paraît tellement simple à dire, mais il a fallu 5 livres pour vraiment l'éprouver. Ces décalages dans la lumière, décalages simplement, ce sont des décalages d'un corps à l'autre. Un décalage de quelques mètres, mais par exemple se tenir debout sur une chaise.
Une chaise à 3 pieds.
mais là, dans le studio par exemple. Simplement s'élever de 50 cm change absolument la perception qu'on a sur un espace, et c'est peut-être celle d'une autre personne, cette perception.
Après coup, Antonin Potofsky, est-ce que vous l'avez repéré, le déclic réel de ce nouveau livre ?
Oui, alors je réponds oui, évidemment, et en même temps je réfléchis parce que je ne peux pas répondre trop vite, mais oui, oui. Alors, ça se joue une situation géographique. Hein. C'est la fin de Cités en Abîme, le moment où je découvre le Sultanat d'Oman, qui est un pays qui n'existe pas, qui n'existe que par ses extensions. C'est-à-dire que les corps qui vous entourent ne sont pas des corps omanais, La langue que vous entendez est souvent du Zanzibari, du Swahili, parce que la capitale d'Oman au XIXe siècle était Zanzibar, qui est une île tanzanienne aujourd'hui. Beaucoup de familles sont remontées et en famille, on parle encore le Swahili. Les corps que vous croisez dans la rue, parce que les Omanais sont dans des voitures, dans des bulles climatisées et ne descendent pas de voiture, les corps que vous croisez quand vous êtes étranger à pied sont des corps est-africains et des corps du sud asiatique et pakistanais, bangladais, indiens. Et je prends depuis le pays du livre, comme j'ai surnommé le pays de Cardamome, l'Est indien et l'Ouest du Myanmar, j'ai surnommé la péninsule arabique le pays de myrrhe, parce qu'on y brûle des larmes d'encens et de myrrhe pour que les espaces, même si on faisait exploser les murs, les espaces tiendraient encore avec la densité de fumée qu'on y brûle. Je prends des vols il existe depuis le Golfe, des vols de travailleurs, parce que ces pays s'arrêteraient immédiatement si la main-d'œuvre cessait de... Une sorte de pont aérien. C'est vraiment des ponts qui sont presque... qu'on peut voir construits, parce que ce sont des vols incessants. Jour et nuit, il y a des dizaines d'avions qui amènent et remènent des travailleurs. Et quand on monte sur ces vols, en tout cas, quand je rencontre des gens de l'Est africain ou du monde indien en myrrhe, au pays de myrrhe, ça se complique, j'ai vécu le part et d'autre. Je viens des villages. Quand je suis dans un village dans les collines dont on a parlé en début d'émission, près du Tripura indien, il y a toujours un oncle qui finance la maison et qui est de l'autre côté. Et quand je suis sur la péninsule arabique, on a toujours des secrets d'humidité, on a toujours des... Quand on rencontre des gens... Parce qu'aujourd'hui, le monde... bon, tout le monde voyage, tout le monde écrit, poste des choses sur Internet, tout est simultané. Et en même temps, cette vie en ligne n'est pas assez incarné. Il me semble très important de vivre le part et d'autre du voyage, d'avoir un quotidien, quand on rencontre quelqu'un, de connaître son quotidien de corps, là, d'où vient cette personne. J'ai commencé à faire parce que j'ai tellement souffert d'être assis et sans être musclé pour écrire, que j'ai commencé à faire du sport à Paris. Donc je suis allé dans un magasin de sport, j'ai acheté un short en nylon, et dans la poche, j'ai trouvé c'était Made in China, et j'ai trouvé une petite mouche brillante, verte, magnifique, un peu comme un bijou. C'est une mouche à merde, en fait. Mais c'est comme si une dame chinoise, une ouvrière, m'avait glissé un petit bijou. Alors, je l'ai gardé un moment, je voulais même l'avoir avec moi, mais je l'ai finalement égaré, ce petit bijou offert par une ouvrière chinoise.
De plus en plus, vous dites dans le livre... Antonin Potofsky, vous cherchez partout dans le monde des refuges qui sont des points d'entrée.
Ça, c'est le côté science-fiction. J'ai toujours rêvé, j'ai longtemps pensé que je voyageais pour trouver l'endroit où habiter. J'ai compris que cela n'arriverait pas, que précisément cette autre vie, cette vie de... Alors, je suis obligé de rentrer dans une histoire un peu compliquée, c'est que avec cette structure qui met des parcours physiques sur les morceaux de musique et sur le... Je le fais aussi avec le temps. Mais on est beaucoup à faire ça. Le temps a un tracé, une géométrie précise. Donc je vois les journées sur la semaine, je vois les semaines sur l'année, les années sur les siècles, mais le temps à venir est moins saccadé et plus. C'est un peu comme dans les écrans, dans les avions, vous avez le trajet à parcourir qui est encore très lisse et le trajet parcouru qui a subi les assauts du vent, donc qui est un petit peu saccadé. C'est exactement la même. C'est un peu comme ça. Au début de mon adolescence, je voyais mon tracé des années à venir. Et puis, donc je voyais mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans. Mais simplement, il y avait un point aveugle environ entre la vingtaine et la trentaine. Un point aveugle que je n'ai jamais comblé. J'ai dépassé ce point aveugle. Je ne sais pas ce qu'il... Je savais que c'était une disparition. Je savais que c'était soit une mort. Je pensais même au sida à l'époque. Je me disais, je vais attraper le sida et puis j'en mourrai. Mais il y avait, je voyais quand même mon trace. Je savais que ma vie continuait. C'est là que je plaçais... Mais tout ça, n'est, évidemment, on se dit, mais il est un peu bête, mais... je fais bien la distinction entre ce qui est de l'ordre d'une structure et de l'ordre de la raison. Je sais que nous n'avons qu'une seule vie pour un seul corps et je ne crois en aucune réincarnation. Mais il y avait donc un moment où je disparaissais et une vie de l'autre côté. Et c'est toujours finalement ces points d'entrée. Souvent, alors maintenant, je sais que je n'habiterai plus nulle part, mais c'est encore cette histoire d'autres corps. Je sais qu'il y a une autre vie parallèle qui m'a toujours, je sais pas, soutenu, permis de tenir debout, qui est, même sans croire à l'autre corps, je cherche toujours des points d'entrée vers ce moment où j'ai disparu. Et ça ne peut pas fonctionner seul. Je suis obligé de rencontrer des gens pour être entouré d'autres corps qui parlent une autre langue. Et je me souviens quand on était au Mali une sorte de place du village qui était la natte. J'aime beaucoup l'horizontalité dans les mondes d'éleveurs. On est sur une natte au sol qui est un carré et cette natte se charge plus ou moins de corps en fonction des heures de la journée, jusqu'à déborder. Parfois on a toujours une jambe ou un bras qui déborde dans la poussière aux heures les plus où il y a le plus de monde. Et je me souviens que par moments, sans comprendre le peul, qui est pour moi la plus belle langue que j'ai entendue, avec peut-être le tigrinien dans le nord de l'Éthiopie, je me souviens que je l'entendais résonner dans ma cage thoracique parce que la personne qui parlait était tellement collée à moi que c'était comme si je la parlais.
Nager sur la frontière, le livre d'Antonin Potofsky est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Tahar Bouklifa, Anne Frankeny, François Poirier, Alain Winston, bonsoir.